France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Antoine Gerber, je suis né le 9 mai 1958 à Paris et je dirige l'ensemble Diabolus in Musica. Les musiques que nous pratiquons viennent du Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une période très 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 éloignée et aussi très très proche de nous.
Mitibus predicitur, morte vita vincitur, et predictus mittitur, concipitur, et vestitur, manium consilium. Morte vita vincitur, et tollitur, et moritur, mortis dominium. Deus homo nascitur, morte vita vincitur, et proter nostratitur, conspuitur, contenditur, et ito proprium. Morte vita vincitur, et tollitur, et moritur, mortis dominium. Suspenditur, morte vita vincitur, sancti sacca lapitur, redimitur et regitur, mundi flagissium. Morte vita vincitur, et tollitur et moritur, mortis dominium. Consolem judicitur, morte vita vincitur, surrexit non morritur, absconditur et creditur, nostrum judicium. Morte vita vincitur, et tollitur et moritur, mortis dominium.
La langue fait partie de la musique. Je me suis ô combien battu pour faire travailler à mes chanteurs les prononciations du latin d'abord, puisque évidemment, pour toute la musique sacrée, c'est le latin. Oui, mais c'est pas la prononciation de 1904 ou 1910, avant ou après les changements de règles. C'est bien sûr un peu plus ancien. C'est pas la prononciation italienne. C'est pas celle que j'ai apprise en sixième au lycée. J'adorais le latin. Donc il a fallu se poser beaucoup de questions, et puis la découverte des français anciens, donc la langue d'oc et la langue d'oïl pour les trouvères et pour les troubadours, grâce à Dominique Touron. Dès les débuts, quand vous chantez une petite chanson d'un trouvère ou d'un troubadour, la prononciation de la langue, ça change tout, ça donne du relief, ça donne de la force. Et puis en plus, on se pique de faire comme c'était avant, d'essayer de faire sonner ces musiques comme elles sonnaient à l'époque. Alors on peut mettre beaucoup de guillemets, beaucoup de précautions à le dire, mais moi j'arrête de mettre des guillemets et des précautions parce que c'est, voilà, quand on cherche un peu, on peut savoir énormément de choses et s'approcher au moins dans l'esprit, si ce n'est dans la lettre, de ces conditions de l'époque.
Et ça, c'est tout le trajet quand même qui est assez passionnant, Antoine Gerber, je pense, quand on s'attelle comme ça à des musiques qui sont anciennes, c'est d'essayer de retrouver l'esprit et la lettre du moment de la création de ces musiques, c'est-à-dire de se départir aussi de tout ce qu'on sait depuis, d'une certaine façon.
Oui, c'est surtout quand j'ai commencé, quand j'ai découvert ces musiques-là, il y avait déjà tout un passé d'ensemble qui commençait à démarrer dans les années 60, 70, même avant. Il y a même eu une espèce de mode sur les découvertes des musiques anciennes. Mais il y avait vraiment de tout et de n'importe quoi à l'époque. On peut le dire tout à fait, ça, avec beaucoup de respect pour ces gens qui ont été des pionniers. Mais parfois, ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Et les trouvères, les troubadours ont été mangés à toutes les sauces. Mais c'est très sympa d'écouter leur version maintenant et de voir qu'elles correspondent en fait à une vision des années 60, 70, très baba cool, avec beaucoup de monde, beaucoup d'instruments improbables qui sortaient d'on ne sait quels antiquaires. Mais nous-mêmes, à Diabolus et Musica, on a fait des premiers concerts avec un saz turc, avec un psalterion qui est en fait un kanoun, égyptien ou un luth marocain, enfin des instruments qui n'étaient pas ceux qui étaient pratiqués en France au XIIe, XIIIe siècle. On a fait beaucoup de chemin aussi pour l'organologie qui, elle aussi, est un monde en soi et qui a énormément évolué depuis ce temps-là.
On va rentrer, vous ne croyez pas, Antoine ?
Oui, si vous voulez, oui.
C'est qu'on est tellement bien au soleil et en même temps,
il y a juste un tracteur.
Est-ce que c'est un tracteur
Est-ce que c'est... Je pense qu'il tombe les bords de Loire. Lui. Il y a le chemin piétonnier.
Alors le tracteur n'est plus notre ami.
Ouais.
On va rentrer, on fait un petit café et on reprend à l'intérieur.
Ouais.
Alors là, on entendrait une...
Oui.
On entendrait une mouche voler, là.
Oui. C'est mieux, c'est plus calme.
Ouais.
Bah, dans un troglo...
C'est ça, on est sous les voûtes.
Ouais.
C'est creusé profond, là.
Oui, c'est creusé profond. Vous voyez, cette pièce, elle fait plus de 40 mètres carrés. En fait, c'était deux habitations différentes qui ont été reliées il y a une dizaine d'années, je crois, par le propriétaire précédent, par ce couloir. Et il y a quatre chambres après, plus un gîte au-dessus, qu'on va exploiter plus tard, quand je serai à la retraite, bientôt.
Ça fait partie du projet.
Oui, bien sûr. Avec ma compagne et ma fille, on va exploiter ça avec bonheur.
Alors, on va entrer véritablement en musique dans votre vie, dans ce désir que vous avez de devenir musicien. Vous avez presque 30 ans.
C'est le monde qui me faisait rêver de plus en plus, qui était considéré comme inaccessible, improbable, impensable. Et puis, donc, j'ai basculé à un moment en me disant, c'est vraiment cette vie-là que je souhaite, c'est ce que je veux faire. Et rétrospectivement, je pense que j'étais complètement fou, complètement inconscient. Mais pas une seconde, je me suis dit, ça va pas marcher, ou ça va marcher, ou il faut faire ci ou faire... C'était pratiquement irréfléchi, c'était plus fort que moi, quoi. C'était plus fort que moi, il fallait que moi, que je fasse des concerts. Ça me faisait rêver d'avoir un pupitre, des spots dans une église, une belle acoustique, et de chanter du plein chant, ou de chanter les trous verts. C'était vraiment quelque chose qui m'a poussé. Presque de façon irréfléchie et automatique, je vais dire. C'était pas possible de faire autre chose. C'était pas possible autrement.
Et vous, le grand timide, en fait, ce public qui vous attirait, d'être face à lui?
Oui, c'est très curieux d'un grand timide qui va passer sa vie sur les planches et avec immodestie montrer aux autres ce qu'il sait faire. C'est pas quelque chose qui m'était prédestiné, naturel. Et donc, bien sûr, j'ai dû me forcer, hein, beaucoup. Mais si je me suis forcé, c'est que ces répertoires sont tellement beaux. Et en plus, je vais pas dire que je me suis donné une mission, mais il y avait tellement peu de gens qui en parlaient, je trouve que c'était, il y avait une espèce d'injustice. De méconnaissance, quand vous pensez que Guillaume de Machaut, il y a des gens qui connaissent pas Guillaume de Machaut, voilà, c'est pas qu'on peut pas vivre sans, mais c'est quand juste un des plus grands écrivains, un des plus grands musiciens de notre histoire. Je trouvais ça très très bizarre, il fallait vraiment que j'apporte mon grain de sel. Donc j'ai commencé à suivre des cours, donc là je crois que c'est dès 1987.
Mais parce que quand même à l'époque, il faut le préciser pour les auditeurs, c'est une époque où les études sur la musique médiévale sont quand même très balbutiantes.
Elles sont tellement balbutiantes qu'elles n'existent pas, en fait. Hein. On peut dire que le Centre de musique médiévale de Paris, qui a un titre très, très ronflant et très sérieux, c'était une petite structure associative. D'ailleurs, c'est toujours une structure associative. Brigitte Laine et Alain Génuis ont beaucoup de mérite de maintenir ça. A commencé à organiser des cours avec Dominique Vélard, avec Marie-Noël Colette, la grande musicologue, spécialiste de plein chant, de façon tout à fait associative, informelle, en dehors de toute structure, de toute institution, de tout conservatoire. Les choses ont bien changé depuis, heureusement, mais ça a vraiment démarré de façon très, très, très modeste, dans un hangar du côté de la Porte des Lilas ou de Pantin, je ne sais plus, voilà, avec des moyens ridicules, mais avec la passion et avec des gens de très grande qualité, donc comme ceux que j'ai cités. Donc j'ai commencé à travailler avec Dominique, qui m'a dit « Écoute, l'été prochain, on monte un drame liturgique, donc c'est un effectif plus important que ce qu'on utilise d'habitude dans les musiques médiévales. Hein. On est dans un monde d'effectifs extrêmement petits. On fait des concerts à 2, à 3, à 4. La polyphonie à 4 voix, c'est 4 chanteurs, pas 16 ou 28. Et là, pour un drame liturgique, il fallait 10 ou 12 chanteurs, je crois. Donc il a recruté quelques bons élèves, quelques grands élèves. Et j'ai eu le bonheur d'en faire partie. Donc j'ai fait cette production dans l'ensemble Gilles Manchois, moi qui sortais de nulle part et qui était le petit amateur qui chantait dans un petit groupe qui s'appelait Diabolus in Musica de façon informelle. J'étais tout de suite dans le bain des grands, avec des grands chanteurs. Et ça a été... beaucoup d'émotion de faire ce drame liturgique par cœur, mis en scène, de façon tout à fait professionnelle.
Et sur un parvis ou...
Non, non, c'était... Non, parce que les drames liturgiques, ça, ce sont les mystères qui sortent de l'Église à la fin du Moyen-Âge. Et... Mais c'est l'aboutissement de ce processus. C'est la naissance du théâtre, en fait, du théâtre religieux, en tout cas, puisqu'il va naître de façon profane au XIIIe siècle. Mais dès le XIIe siècle, on écrit même auparavant des drames liturgiques qui sont insérés dans la liturgie, qui sont des amplifications de la liturgie, des moments où il y a des dialogues. Ça plaît particulièrement aux moines, donc ils commencent à développer ces dialogues, à les gloser, à écrire des proses, et ça devient des pièces individuelles qui sont les ancêtres de notre théâtre, insérées dans la liturgie. Puis ça se développe tellement, ça plaît beaucoup, qu'à la fin du Moyen-Âge, ça sort de la liturgie et ça sort du bâtiment église ou cathédrale pour être joué devant les parvis, sur les parvis. Ce sont les grands mystères du XVe siècle qui pouvaient durer 3 jours avec 50 figurants, comédiens, musiciens mis en scène. On voit ça sur les peintures du Tourangeau Fouquet, le grand peintre du XVe siècle de Charles VII et de Louis XI. Les historiens faisaient de l'histoire, les musiciens faisaient de la musique, les historiens de l'art faisaient de l'histoire de l'art, et c'est assez tardif tous ces liens, ces correspondances et ces renforcements qu'on a trouvés. Un des premiers, ça a été Georges Duby, je crois, qui a écrit sa trilogie sur l'Europe des cathédrales, qui est extraordinaire encore maintenant. Bien sûr, l'historiographie a beaucoup évolué depuis, mais c'était des textes fondateurs qui m'ont beaucoup marqué, parce que j'ai lu ça il y a plus de 30 ans.
C'est lui qui parlait du mal Moyen-Âge.
Oui, le mal Moyen-Âge, en parlant de la période féodale, justement, dont il était un spécialiste mondial, puisque c'est une période pour laquelle les femmes servent de prétexte d'arrière-plan. Hein. Vous savez, les premières chansons d'amour, le chevalier se décrit comme transi, au pied de sa dame, prêt à faire les plus grands exploits pour elle, mais ce sont des fictions, ce sont des mises en scène, ce sont des chansons d'hommes qui décrivent les sentiments des hommes qui se mettent en scène, qui se donnent le beau rôle, et la femme, elle est en arrière-plan, toujours, c'est le prétexte, mais ça n'est pas le rôle principal.
Bah, c'est un monde assez masculin.
C'est un monde très masculin, bien sûr, mais bon, ça a duré longtemps, ça, il n'y a pas qu'au Moyen-Âge que le monde a été très masculin, mais oui, il y a eu des très très grandes figures féminines, bien entendu. Aliénor, bien sûr, Héloïse, mais il y a eu des grandes intellectuelles, Hildegard von Bingen, mais ce sont des exceptions qui confirment une règle très malheureuse.
Mais ce que j'entends aussi, c'est que dans ce monde de l'interprétation de la musique médiévale, c'est aussi beaucoup, quand même, des ensembles, des chœurs d'hommes.
Non, il y a beaucoup d'ensembles féminins. J'ai des collègues très, très talentueuses. Donc, il y a eu l'ensemble Discantus de Brigitte Lenne, mais il y a Katharina Livianic avec Dialogos. Il y a des cellistes. Il y a beaucoup d'ensembles féminins aussi. Mais il faut dire que le répertoire, tous les répertoires religieux, concernait surtout les hommes. Les femmes chantaient bien sûr le plein chant dans les abbayes, elles chantaient très peu la polyphonie, il y a très 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 peu malheureusement pour elles de manuscrits polyphoniques pour les voix de femmes, mais bien entendu on est des interprètes du 21e siècle et ces ensembles ont bien raison de chanter des messes polyphoniques du 14e ou du 15e siècle qui, on le sait très bien, étaient chantées par des hommes et uniquement des hommes, mais c'est magnifique de le faire maintenant avec des voix de femmes et ça sonne aussi parfaitement bien.
France Musique, les grands entretiens d'Antoine Gerber.
Alors dans les ensembles avec lesquels vous avez collaboré, il y en a plusieurs. Gilles Binchois qu'on a évoqué, mais il y a aussi l'ensemble de Marcel Pérez.
Oui, j'en ai pas parlé encore.
Organum. Donc,
oui, ça a été une rencontre déterminante aussi parce que bon, Marcel Pérez est un homme de passion, de conviction. Et puis à l'époque, l'ensemble Organum marchait du tonnerre. Vraiment, il y a même une espèce d'engouement, de mode comme il y avait pour les grands ensembles de musique baroque qui naissaient à cette époque-là. dans la suite des arts florissants. Il n'y avait pas que les arts florissants, mais beaucoup d'ensembles baroques ont surfé sur une espèce de mode, et ça commençait pour l'ensemble Organum. Et j'ai passé une audition, c'était fin 89, avec Marcel Pérez, pour un drame liturgique. C'est encore un hasard drôle. Donc l'ensemble Organum avait besoin de s'agrandir aussi. Là, c'était 15 chanteurs qu'il fallait pour ce drame liturgique des pèlerins d'Emmaüs. Et j'ai été pris, donc j'ai été, pour la première fois, je suis allé à l'abbaye de Royaumont, j'ai découvert ce lieu incroyable, magnifique, dans lequel on pouvait répéter des jours avec les lieux à notre disposition. L'ensemble Organum était vraiment chez lui à cette époque-là, c'était des conditions de travail magnifiques. Et là encore, la découverte de collègues, de grandes voix, certains ont intégré mon ensemble, c'est là que j'ai forgé vraiment un carnet d'adresses, et puis était en contact avec des chanteurs extraordinaires, d'un très grand niveau, bien supérieur au mien, et c'était un immense bonheur.
Et qu'est-ce que vous leur trouviez justement de spécifique à la lecture de Marcel Pérez, qui n'est pas celle de Dominique Vélard ?
Ah non, c'est ça qui était passionnant, c'était ce contraste justement. Dominique avait un sérieux incroyable dans l'étude des sources et dans la manière de les interpréter, un respect de la notation magnifique. Et Marcel a apporté une espèce de liberté, un souffle, une manière de faire différente, peu orthodoxe, si je peux utiliser cet adjectif pour la musique religieuse, c'est peut-être pas très adapté, mais en tout cas peu classique, en utilisant des émissions vocales très très différentes, donc des chanteurs venant d'autres traditions, notamment le fameux Lycourgos Angelopoulos, le grand chanteur grec qui est décédé récemment, malheureusement. L'ensemble Organum a vraiment bousculé les manières de faire, encore peu ancrées à cette époque-là, dans les années 90, mais a apporté vraiment une bouffée d'air frais, donc j'étais heureux de participer aussi. Je pense être un des rares chanteurs à avoir participé aux deux ensembles, parce qu'il y avait un petit peu les chapelles, vous savez, bien sûr, on a beau être peu nombreux, il y a quand même des chapelles qui se créent, et moi j'ai pu bénéficier de ces deux manières de faire très différentes et passionnantes toutes les deux. Quand vous écoutez une pièce avec deux ensembles différents, même très sérieux sur le plan musicologique, les résultats peuvent être vraiment très différents. Donc on peut avoir à la fois ce respect des sources et ce sérieux dans le travail musicologique, et à la fois cette liberté d'interprète du XXIe siècle, parce qu'on peut avoir les deux pieds dans le Moyen-Âge, mais être un chanteur du XXIe siècle qui fait comme il a envie de faire.
Donc l'authentique reste personnel. Chacun a sa vision de l'authentique, c'est ça?
Oui, l'authentique, ça n'existe pas. Moi, je parle plutôt de respect des sources, du travail sérieux, musicologique. Vous savez, les Anglais disent hip, H-I-P, l'interprétation historiquement informée. Mais après, on reste des chanteurs du XXIe siècle. Donc, une basse profonde ne va pas chanter la même pièce comme un alto masculin ou comme une soprane. Et ça donne des sensations extrêmement différentes pour l'auditeur. Donc, on a beaucoup de liberté encore.
Mais est-ce que le chemin, Antoine Gerber, il consiste, quand vous dites historiquement informé, il consiste à essayer pour l'interprète de se retrouver à l'état alpha de l'interprète du XIe siècle?
Alors, toutes les démarches sont possibles et sont tout à fait recevables, évidemment, et justifiables. Si je peux prendre l'exemple d'un des très grands chefs-d'œuvre du Moyen-Âge, qui est la messe de Machaut, moi, ce qui m'intéresse pour cette messe de Machaut, comme pour toutes, c'est la même démarche pour tous les répertoires du Moyen-Âge, c'est de retrouver la manière dont elle était interprétée et de faire quelque chose qui plausiblement a été entendu au XIVe siècle par Guillaume de Machaut quand il faisait travailler sa messe à ses chanteurs. C'est pas par snobisme ou par étroitesse d'esprit, c'est parce que moi j'ai remarqué que plus cette préoccupation historique était respectée, plus ça me parlait, plus ça me faisait vibrer. Mais quand j'ai entendu cette messe de Machaut par un quatuor de saxophone, le saxophone n'existait pas vraiment au XIVe siècle, par des interprètes magnifiques, et le quatuor Machaut de Quentin Biardot à Orléans, ils ont fait un travail extraordinaire, c'était magnifique, ils ont respecté les lignes de Machaut, ça sonnait terriblement. C'est finalement des instruments pas si éloignés que ça de la voix humaine, et j'ai trouvé ce travail magnifique. J'ai entendu cette messe de Machaut sur un gamelan balinais, quelque chose de totalement improbable, sur une guitare électrique par Noël Achoté. À chaque fois, j'ai trouvé les musiques intéressantes, et c'est d'abord c'est rigolo, moi ça me fait beaucoup rire, le gamelan balinais, le kyrie de Machaut, ou à la guitare électrique, et c'est très beau. Moi, c'est pas du tout ma démarche. Moi, je sais que c'était quatre chanteurs, quatre solistes, que la messe, elle était interprétée avec aussi les parties grégoriennes, que c'était pas les mêmes chanteurs, que c'était deux, trois ou quatre chanteurs qui faisaient les parties grégoriennes ou un chœur plus important. Ça dépend des conditions, des jours. Et donc, j'ai voulu reconstituer la messe de Machaut telle que Machaut l'a entendue avec la prononciation du français au XIVe siècle, car on est documenté sur ces prononciations. Je n'invente rien. Et donc, moi, j'essaye d'aller au bout, jusqu'au bout de la démarche, de cette même démarche de retrouver ces sons anciens. Ça me fascine totalement. C'est mon moteur d'essayer de retrouver ce qui a été vraiment entendu autrefois.
L'organologie a une grande part là-dedans aussi, parce que vous, vous jouez de la harpe,
oui.
La petite harpe, celle qu'on appelle la harpe romane,
oui,
c'est ça ?
Oui, la première dans l'histoire des harpes. Oui.
Et cette harpe romane, est-ce qu'on en connaît une authentique ? Non, on la connaît dans des enluminures et on la...
On la connaît uniquement dans des enluminures, donc il y a quelques harpes qui nous restent de la fin du Moyen-Âge et qui ne sont déjà plus la harpe gothique, c'est un instrument qui évolue beaucoup. Donc,
la harpe gothique, elle s'est lancée en fait.
Oui, elle a grandi, elle a pris 7 cordes de plus, 8 cordes de plus. Moi, j'ai 17 cordes, j'ai 2 octaves et 1 tierce. Et puis, il y a des techniques qui sont apparues sur la console pour jouer, évidemment, les altérations. Moi, ma harpe est diatonique, on ne peut jouer que les notes blanches du piano. Il n'y a pas de piano à l'époque, donc je joue de la harpe. C'est l'instrument roi pour accompagner la voix au Moyen-Âge, avec la vielle à archet qui même préexiste à la harpe en France du Nord pour ses troubadours.
La harpe, vous l'avez apprise seule ?
Oui, la harpe, donc c'est en fait les conséquences de l'arrêt du chant. Pour moi, je me suis dit, bon, c'est sympa de diriger des chanteurs, mais quand même, je voudrais bien rester sur scène et accompagner ces chansons que j'aime tant. Et donc, j'avais plusieurs viellistes déjà dans l'ensemble, mais pas de harpiste. Donc, je me suis dit, je vais pas chercher un harpiste, je vais devenir harpiste. Là aussi, il fallait une bonne dose d'inconscience ou de culot ou de, je sais pas.
De passion.
De passion, oui, certainement, il en fallait. Parce qu'on est quand même pas très, très nombreux, là, en France, voire dans le monde, à jouer cet instrument qui a la même tessiture qu'un chanteur. C'est vraiment idéal pour ses chansons.
L'anonyme Pater Sanctae pour voix d'homme et harpe interprétée par Diabolus in Musica dirigée par Antoine Gerber. Ainsi se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec Antoine Gerber. Équipe de réalisation, Lionel Quentin, Hélène Langlois, Bastien Varigaud et Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.